C'était Noël il y a 3 jours, comme François nous l'a rappelé. Et je crois pas avoir eu l'occasion de vous le souhaiter. Alors, joyeux Noël à chacun et à chacune. Ça fait vraiment plaisir d'être de retour en Belgique. On était partis pour les fêtes, mais voilà, en Belgique, en France. Oh là là, on est en France. Ok. En tout cas, joyeux Noël à chacun et chacune. Alors, comme c'était le cas dans notre église, et Noël est souvent l'occasion pour les croyants d'inviter des amis à des événements de Noël dans l'église. Et ceci afin qu'ils puissent découvrir l'importance de la naissance de Jésus. Et c'est aussi une période de l'année où les croyants essaient de partager cette bonne nouvelle de la naissance de Jésus à ceux qui les entourent et en dehors de l'église, notamment lors de fêtes de famille, de repas et d'autres occasions. Alors je me souviens par exemple d'avoir fait des sondages avec les groupes bibliques universitaires il y a quelques années, et ceci pour découvrir, durant la période de Noël, pour découvrir ce qu'ils pensaient de cet enfant Jésus, de l'identité de Jésus. Et aussi pour leur annoncer ce que la Bible nous enseigne par rapport à cette naissance. Alors si je me souviens bien, personne ne niait la naissance de Jésus, mais il y avait quand même des opinions qui variaient beaucoup par rapport à qui il était. Alors je me souviens qu'il y en a qui disaient qui croyaient que c'était juste un homme sage, d'autres pensaient que c'était un politicien révolutionnaire, d'autres un prophète, et rien qu'un prophète. D'autres croyaient qu'il voulait être simple, un bon exemple pour rendre le monde meilleur. Et quelques-uns pensaient que Jésus était le Christ, que Jésus était Dieu fait homme. Je me souviens aussi de l'image que beaucoup de monde avait de cet enfant Jésus, de Jésus qui était né. Ils avaient l'image d'un petit enfant, tout mignon, tout propre, dans une belle petite mangeoire, entouré de beaux bergers et de beaux petits animaux, tout étincelant, tout beau, tout propre. Alors on va voir dans notre passage, dans Luc 2, que ces images, oui, ils ont une part de vérité, mais en même temps, on va voir que ces images que nous avons sont pas toujours tout à fait exactes. Elles sont souvent bien limitées. En fait, ce que l'on va découvrir concernant la naissance de Jésus, de l'enfant Jésus, ce sont des choses qui auraient pu être inscrites sur son acte de naissance, s'il en avait eu un. En effet, ce passage parle du moment où il est né. Il nous dit quand il est né, un moment de l'histoire. Il nous dit où il est né. Il nous dit aussi qui sont ses parents, et il nous dit qui il est lui. Et grâce à ces informations, on va voir pourquoi on devrait être bien plus qu'ému face à ce nouveau-né, qu'on l'est si souvent, par exemple devant Alexia, l'enfant de Katia. Pardon ? Camilla, pardon. Désolé, je me trompe de prénom. On devrait être bien plus qu'ému face à Jésus que devant n'importe quel autre nouveau-né. En effet, on devrait être dans l'émerveillement et même dans l'adoration devant ce nouveau-né. Et on va voir pourquoi on peut avoir la certitude de qui Jésus est. Alors justement, alors qu'on est déjà à Luc 2, on va lire, lisons ce passage. Luc 2, versets 1 à 20. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une nouvelle, une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disaient. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors, comme on le voit, comme on vient de le lire, ce passage se concentre surtout sur la naissance de Jésus. La première chose que l'on remarque dans ces versets, c'est le moment de sa naissance. C'est que sa naissance, la naissance de Jésus, est bien ancrée dans l'histoire. C'est ce qu'on lit au verset 1 et 2, n'est-ce pas ? Il est né au moment où l'empereur romain, César Auguste, avait ordonné un recensement qui avait été mené et achevé sous le règne du gouverneur Quirinius. En fait, il semblerait que celui qui a fixé le calendrier chrétien au VIe siècle de notre ère, le moine Denis le Petit, eh bien, il semble qu'il ait fait une erreur de datation, justement concernant la naissance de Jésus. En effet, c'est entre l'an 4 avant Jésus, quand le roi Hérode est décédé, et alors que Quirinius avait commencé son recensement, et l'an 6 après Jésus, quand ce recensement s'est vraisemblablement terminé, alors que Quirinius est devenu gouverneur de Syrie, que Jésus est né. Et c'est probablement plus vers l'an 4 avant Jésus qu'il est réellement né. Mais en tout cas, nous remarquons, à partir de ces deux versets, que la naissance de Jésus est bien ancrée dans l'histoire. Ainsi, à partir du verset 1 et 2, on voit que Luc s'efforce d'écrire des événements historiques, n'est-ce pas ? Et c'est aussi ce qu'on lit aux quatre premiers versets de son évangile, au chapitre 1. Si vous tournez la page, vous pouvez lire, mais voici ce qu'il dit. Luc dit qu'il s'est soigneusement informé auprès de témoins oculaires concernant la vie de Jésus, et ceci dès le commencement, afin de décrire ces événements. Pourquoi a-t-il fait cela ? Il dit clairement, afin qu'on reconnaisse la certitude des enseignements concernant Jésus, afin qu'on puisse avoir des récits historiques fiables concernant Jésus. En fait, Luc, c'était un docteur formé, c'était un homme érudit et éduqué. Et en lisant ces récits, on voit qu'on peut le prendre au sérieux. Parce que les détails qu'il rapporte montrent qu'il s'est renseigné soigneusement, méticuleusement, auprès de témoins qui ont vu Jésus. On remarque cela, par exemple, grâce à son compte-rendu du témoignage des bergers, n'est-ce pas? Vous l'avez vu. Au verset 15, il nous est dit que les bergers se sont décidés à aller, se sont parlé les uns aux autres, et se sont décidés à aller à Bethléem pour voir ce qui était arrivé, selon ce que le Seigneur leur avait fait connaître. Au verset 16, et ils trouvent tout comme l'ange le leur avait dit. Au verset 17, après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de Jésus. Enfin, au verset 20, ils adorent Dieu à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Ce récit est donc bien fidèle. Ce récit est donc bien un récit historique. La naissance de Jésus est bien ancrée dans l'histoire. Donc, bien que certains voudraient traiter la naissance de Jésus comme une légende qui a peu ou pas de crédibilité historique, on remarque à partir de ces textes que non, la naissance de Jésus est un fait historique. Il s'agit de personnages réels, Marie, Joseph, les bergers, Jésus. Ils ont fait un vrai voyage dans une vraie ville, Bethléem, qui existe encore aujourd'hui. Et ceci a été fait à un vrai moment de l'histoire. Ainsi, quand on parle de la foi chrétienne, on se trouve sur un terrain solide. Et on peut avoir la certitude de ce qui nous est enseigné concernant Jésus, concernant sa vie et concernant sa venue dans le monde, sa naissance. On a vraiment de bonnes raisons pour lesquelles on peut faire confiance à Jésus en cette période de Noël. Alors une deuxième donnée qu'on aurait pu retrouver sur l'acte de naissance de Jésus est son lieu de naissance, qui est Bethléem. En effet, selon l'ordre de l'empereur, et comme tous les habitants de l'Empire, Joseph a dû se rendre avec sa femme, à Marie, sa femme qui était enceinte, à sa ville d'origine, Bethléem, la ville de David. Pourquoi ? Parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Et c'est alors qu'ils étaient là, à Bethléem, que l'enfant se met à gigoter. Et que le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle donna naissance à son fils premier-né, dans une mangeoire, où elle l'enveloppa de l'ange. Alors le verset 7 ne nous dit pas précisément pour quelle raison c'est arrivé ainsi, pour quelle raison il se trouve dans cette mangeoire, enfin les raisons précises. Mais en tout cas, on sait seulement que c'est arrivé parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans la salle des hôtes. Alors face à cette naissance, on pourrait croire que ceci n'a rien, que jusqu'ici il n'y a rien de bien spécial. En effet, il y a des milliers et des milliers de naissances chaque jour de par le monde. Et puis à l'époque de Jésus, il y avait certainement beaucoup de femmes qui donnaient naissance à leur premier-né, à leur fils premier-né. Oui, c'est bien une naissance qui a lieu dans l'histoire et à un endroit réel. Mais à première vue, c'est une naissance banale qui n'a rien de bien spécial. En tout cas, à partir des premiers versets de ce passage. À part, bien sûr, les circonstances dans lesquelles cette naissance prend place. Il n'y a plus de place là où les humains s'abritent et accouchent habituellement. Et du coup, ils doivent se rendre à un endroit où se retrouvent d'habitude les animaux pour manger et pour faire bien d'autres choses. Et du coup, ils doivent aller... Et dans cet endroit, imaginez un peu cet endroit, ça devait vraiment sentir très mauvais. Et ça devait être bien, bien moins confortable que le pire des hôtels Formule 1. C'est un peu comme si Camilla avait dû donner naissance à Alexia dans un petit abri de parking ou dans un garage abandonné dans un coin obscur. Parce qu'elle n'avait pas trouvé d'hôpital ouvert ou qui pouvait l'accueillir ou une clinique qui était disponible pour avec un lit disponible pour elle. Et pour une raison ou une autre, elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Et aucune de ses amies ou aucun de ses amis ne pouvait l'accueillir. Alors si cela était arrivé à Alexia et Camilla, on serait outragé, n'est-ce pas? On serait choqué. Mais cela est arrivé à Jésus. À sa naissance, il n'a pas trouvé d'endroit où s'abriter. Et ceci même dans les abris les plus ordinaires pour des humains. Oui, sa naissance est ancrée dans l'histoire, mais elle est très humble, voire humiliante. Enfin, la troisième chose de la naissance de Jésus, c'est le contraste frappant entre l'endroit où il est né et qui il est. En effet, Jésus n'est pas n'importe quel enfant, n'est pas un simple enfant comme Alexia. Non, il est le roi glorieux, le Seigneur, le Sauveur. Alors c'est ce qu'on apprend au travers de l'annonce de l'ange. Au verset 9, on voit l'ange, un être céleste glorieux et très impressionnant qui apparaît au berger. Et la gloire du Seigneur, c'est-à-dire la présence même de Dieu, resplendit, brille tout autour d'eux. Et comme c'est le cas dans toutes les apparitions d'anges dans l'évangile de Luc et aussi dans l'Ancien Testament, ceux-ci sont saisis d'une immense frayeur, d'une grande frayeur. Et ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas? Si nous, on était dans la même situation qu'eux, eh bien, je crois qu'on aurait réagi exactement de la même manière, effrayé, tremblant de peur. Ce récit est donc bien différent des scénettes de la nativité dont on a l'habitude. Même si on les aime parce qu'elles sont jouées par des enfants mignons, nos enfants qui sont ici mignons. En effet, ces scénettes ne communiquent pas toute la gloire resplendissante de Dieu, ni la grande frayeur des bergers. Alors peut-être en entendant tout ceci, vous pensez que ce n'est que dans les films de science-fiction comme Le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux qu'on fait face à ce type de rencontre. Peut-être que vous dites que vous doutez un peu de ce qui est arrivé. Mais quand on considère la bonne nouvelle que l'ange annonce, qu'il annonce que Dieu est en train de se faire homme, que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme, qui est entré dans le monde, alors ça devient un peu plus crédible, n'est-ce pas? En effet, à quoi est-ce qu'on s'attendrait si Dieu décidait de venir dans le monde? Pour un tel événement divin et extraordinaire, on s'attendrait tout à fait à des annonces divines et extraordinaires, n'est-ce pas? Il va quelque part de soi que la venue de Dieu, la venue du roi glorieux, soit précédée d'annonces extraordinaires et glorieuses. D'ailleurs, s'il n'y en avait pas eu, ça aurait été un peu bizarre. Ainsi, pour cette naissance importante, il y a des annonces glorieuses. Et il y a aussi des titres glorieux qui sont employés. Vous avez vu les titres employés au verset 11? Que Jésus est un sauveur. Il est le Messie, ou le Christ, en d'autres termes, et le Seigneur. En fait, le titre Messie ou Christ est un titre très important, comme on l'a vu déjà avec François. Et ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Non, c'est un titre. C'est un titre qui veut dire « roi divin, descendant de David, qui règne pour toujours ». Donc à chaque fois qu'on lit Christ ou Messie dans la Bible, on pourrait lire « roi glorieux, roi promis ». roi divin. Et ce titre Christ ou roi promis est martelé dans ce passage, parce que Luc ne cesse de le dire, il ne cesse de dire qu'ils sont dans la ville de David. Et que Jésus est de la famille de David. Il est de la lignée de David. Si Luc répète ceci, c'est vraiment pour qu'on comprenne que Jésus est ce roi tant attendu. Ce roi tant attendu de 2 Samuel 7, par exemple, où Dieu avait promis au roi David qu'il aurait un descendant qui allait affermir son trône, qui allait être appelé fils de Dieu, et qui allait régner pour toujours. Ainsi Luc nous dit, c'est Jésus qui est ce roi, descendant de David, glorieux, divin, qui règne pour toujours. Et c'est d'ailleurs ce que l'ange Gabriel avait annoncé à Marie en Luc 1, juste avant notre passage Luc 1, au verset 32 et 33, en disant que son fils allait être grand et à être appelé le fils du Très-Haut, que le Seigneur allait lui donner le trône de David, son ancêtre, et son règne n'allait pas avoir de fin. Aussi, si Luc insiste tellement sur le lieu de naissance de Jésus, la ville de David, Bethléem, c'est pour faire référence à une autre promesse donnée environ 500 ans avant la naissance de Jésus, qu'on retrouve en Michée 5, versets 1 et 4. Et c'est alors que Dieu annonce un message de jugement à Israël à cause de sa désobéissance, qui leur donne une lueur d'espoir. Il leur dit ceci, en Michée. « Et toi, Bethléem, Éphrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où il accouchera celle qui doit accoucher. Et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. » Ainsi, Jésus n'était pas un bébé ni un roi comme les autres. Non, il est le roi divin, descendant de David, qui règne pour toujours. On voit ceci aussi parce qu'il est appelé le Seigneur au verset 11. Dans l'Ancien Testament et aussi dans l'évangile de Luc, Seigneur est un titre qui est aussi donné à Dieu. On voit notamment au verset 9 de notre passage où il nous est dit qu'un ange du Seigneur apparaît et que la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ainsi, Jésus est non seulement le roi, mais il est le roi divin, glorieux, qui règne pour toujours. Enfin, l'ange appelle Jésus le Sauveur. C'est aussi un titre qui est très souvent donné à Dieu dans l'Ancien Testament, parce qu'il avait sauvé Israël, son peuple, tellement de fois du danger à cause de son péché. Ainsi, Jésus est le roi glorieux et le sauveur, qui, selon le verset 14, littéralement, apporte la paix aux hommes de la bienveillance, de la faveur de Dieu. Michée avait déjà dit que ce roi allait apporter la paix, n'est-ce pas? Et la citation du chapitre 1 de Luc, du verset 79, en fait, elle vient d'Ésaïe 9. Verset 1, et nous confirme que Jésus est le roi divin qui allait sauver et amener la paix. On a vu ce passage, donc on ne va pas retourner à ce passage, vous pouvez réécouter la prédication en ligne. Ésaïe avait ainsi annoncé 700 ans avant la venue du libérateur de Jésus, que justement, il allait être un libérateur à la hauteur. Ça allait être un enfant qui allait être le prince de paix. Et le Dieu puissant, qui allait régner pour toujours et apporter la joie et la paix à tout son peuple. On avait vu qu'il allait faire cela en mettant le monde sans dessus-dessous. Lui qui est le roi divin, parfaitement juste, parfaitement bon, il allait mourir en prenant la punition de Dieu à la place de ceux qui se sont rebellés contre lui et qui méritent de mourir. Ainsi, Jésus est le roi divin, glorieux, et en même temps, il s'est humilié à la croix pour sauver ceux qui se confient en lui. Il s'est non seulement humilié à la croix, mais on voit déjà son humiliation à sa naissance. Il a commencé sa mission de sauvetage en s'humiliant, en naissant dans une mangeoire pas belle du tout, minable. Le roi divin a quitté sa gloire céleste, non pas pour naître dans un palais somptueux, mais dans une petite mangeoire négligeable. Il est vraiment l'humble sauveur, le serviteur par excellence. Alors en entendant tout ceci, il se peut que vous ayez encore des doutes concernant cette naissance. Alors si tel est le cas, et quand il nous arrive de douter, rappelons-nous que grâce à ce texte et à bien d'autres, on peut vraiment avoir la certitude de qui Jésus est. Parce que la foi chrétienne a de bonnes fondations sur lesquelles on peut construire sa vie. Non seulement la naissance de Jésus est ancrée et bien ancrée dans l'histoire, mais Luc s'est soigneusement renseigné auprès de témoins oculaires. Il a fait un travail vraiment minutieux. Et ces témoignages extraordinaires ont été confirmés par des annonces angéliques extraordinaires auxquelles on s'attendrait avant la naissance du roi. Et non seulement cela, mais ces bergers ont bien trouvé tout selon ce qui leur avait été annoncé. Et non seulement cela, mais le roi glorieux et l'humble serviteur est venu selon de nombreuses promesses de l'Ancien Testament qu'on a pu le voir dès la présidence. Nous avons donc vraiment de très bonnes raisons de croire en Jésus, de croire qu'il est le Christ, qu'il est le roi, et de croire qu'il est le Sauveur, le Seigneur. Si et quand nous doutons, pourquoi ne pas faire comme Marie, comme on le voit dans ce passage, qui méditait sur ces choses? Cette période de Noël est vraiment un bon moment pour faire cela. Pourquoi ne pas lire l'évangile de Luc, qui est basé sur des témoignages oculaires et qui montre qui Jésus est? Alors, je connais plusieurs personnes qui ont fait cela et qui ont été poussées à investiguer plus la foi chrétienne. Et ils ont été frappés par sa fiabilité. Soyons comme eux et soyons comme Marie, qui ont médité sur cette parole pour vraiment voir qui Jésus est, et être confortés dans qui il est. Alors en faisant cela, nous ne manquerons pas d'être émerveillés face à Jésus, n'est-ce pas? En effet, l'enfant qui est né il y a plus de 2000 ans n'était pas n'importe quel enfant, n'était pas un simple enfant. Le Créateur de tout l'univers s'est humilié en venant parmi ses créatures sur cette terre. Les mains qui tenaient la terre, qui ont créé ce monde, se sont laissées clouer sur une croix immonde. N'est-ce pas sage, n'est-ce pas un privilège que de se confier en ce roi, en ce sauveur, que de se soumettre à ce roi? Il est vraiment le seul qui peut nous apporter la paix, qui peut nous donner la vraie joie profonde. C'est pour ça qu'il est venu. Soyons humbles devant ce roi. Plions le genou. Confions-nous en lui. Parce qu'il est venu pour sauver des humbles. En effet, Jésus est venu pour les humbles, c'est-à-dire ceux qui plient le genou devant lui et qui reconnaissent qu'ils ont besoin de lui, de ce roi. Dans les autres évangiles, on voit que Jésus est venu pour tout le monde. Et on voit qu'il est venu pour des gens de haut rang, notamment les mages qui sont venus de l'étranger, des gens de haut rang, qui sont venus s'incliner, s'humilier et s'incliner devant ce roi. Et on voit aussi qu'il est venu pour des riches. Et dans l'évangile de Luc, on voit particulièrement qu'il est aussi venu pour les gens marginalisés, pour les gens en marge de la société, pour les faibles, les petites gens. C'est notamment ce qu'on voit avec les bergers dans ce passage. Les bergers qui étaient des gens en marge de la société, qui, à cause de leur métier, étaient considérés comme impurs et pas à fréquenter. Mais on voit donc dans ce passage que Jésus est le roi glorieux qui est venu pour tout son peuple, pour tous ceux qui s'humilient devant lui. Et humble ne veut pas dire, soi-disant passant, ne veut pas dire plus crédule ou plus naïf. Non, on voit que même ces bergers se sont dit, on va vérifier ce qu'on a entendu. On va aller à Bethléem voir ce que le Seigneur nous a dit. Ainsi, Jésus est venu pour tout le monde, tout le monde. La bonne nouvelle est pour tout son peuple, les grands comme les petits, les banquiers, les instituteurs, comme les bergers, les éboueurs, les chômeurs. Si vous vous sentez exclu ou en marge, alors sachez que Jésus est aussi venu pour des gens comme vous. Il est venu pour donner la paix avec Dieu à tous ceux qui s'humilient devant lui, qui se confient en lui. Oui, comme un cadeau immérité, c'est en Jésus, le roi glorieux qui s'est humilié au plus haut degré, que Dieu apporte la paix et la joie. Sa naissance est vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors cela est non seulement une bonne nouvelle pour nous, mais aussi c'est aussi une très bonne nouvelle pour d'autres. Et c'est ce que les bergers avaient bien compris, n'est-ce pas ? Parce qu'ils se sont, quand ils ont réalisé la bonne nouvelle et qu'ils l'ont vu de leurs propres yeux et qu'ils ont cru, ils ont annoncé cette bonne nouvelle à ceux qui étaient là, ce qui concernait ce petit enfant. Faisant comme eux, et ceci que l'on soit petit ou grand dans la société, et ceci afin que les petits et les grands de la société puissent connaître la vraie paix du cœur éternelle en Jésus-Christ. Et pour qu'ils puissent connaître la vraie joie, là, une grande joie. Ainsi, ils auront l'occasion d'avoir la vie éternelle, eux aussi. Enfin, la réaction d'émerveillement et d'adoration des bergers et même des anges face à cette bonne nouvelle est vraiment appropriée, n'est-ce pas ? Jésus, il est le roi glorieux divin. Et le Sauveur, l'humble serviteur. Jésus est le Christ, et il est le Seigneur, le Sauveur. Il s'est humilié, il a quitté sa gloire céleste pour naître dans une étable, pour mourir sur l'infâme bois, pour sauver des pécheurs comme vous et moi. Quelle bonne nouvelle ! Il mérite qu'on se joigne aux anges pour dire gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix parmi les hommes de sa bienveillance. Prions ensemble pour terminer. Oui Seigneur, nous voulons te dire gloire, gloire dans les lieux très hauts. Merci pour la paix que tu donnes aux hommes de ta bienveillance et aux femmes de ta bienveillance. Nous voulons élever ton nom pour ce roi glorieux. Seigneur, nous sommes dans l'émerveillement devant ce roi. Ce n'est pas simplement un bébé. Ce n'était pas simplement un bébé dans cette mangeoire. C'était le roi glorieux qui règne toujours en gloire maintenant. Nous voulons t'adorer, te louer, élever ton nom. Nous voulons plier le genou devant le roi. Nous voulons nous humilier. Aide-nous à nous humilier plus devant ce roi. Aide-nous à voir plus qui il est. Aide-nous à partager cette bonne nouvelle pour que les grands comme les petits puissent se confier en ce roi qui s'est humilié. Aide-nous à vivre plus d'une manière qui te glorifie, parce que tu as tout fait de manière imméritée pour nous. Sois béni au nom de Jésus. Amen.